Épître aux Romains, chapitre 12 à 15. Lecture du résumé. Avec le chapitre 11 se termine la partie doctrinale de notre épître. Des exhortations suivent. Elles s'appuient sur ce qui vient d'être dit, et elles invitent les croyants à une marche de sainteté et de fidélité vis-à-vis de Dieu et des hommes. L'humilité et l'amour, joints à une grâce qui se manifeste dans la justice pratique, doivent la caractériser. Le chrétien est un homme vivant parmi les hommes, mais, d'après le caractère de l'épître, il est un homme délivré et séparé du monde, et il doit le manifester par son esprit et sa marche dans les diverses circonstances dans lesquelles il peut se trouver, soit dans la maison de Dieu, soit dans le monde. Ce qui lui convient, c'est la simplicité de cœur, un esprit paisible qui cherche le bien de son prochain, qui ne se recherche pas soi-même, qui ne se venge pas, mais qui s'efforce de surmonter le mal par le bien. Le chapitre 12 nous montre le croyant plutôt dans sa position de membre du corps, d'enfant à l'intérieur de la maison, tandis que le chapitre 13 nous le montre, en quelque sorte, en dehors de la maison, dans ses rapports avec le gouvernement de ce monde et ses autorités instituées de Dieu. Peu importe la forme que ces autorités revêtent, le chrétien ne doit pas s'opposer à elles, mais leur être soumis et rendre à chacun l'honneur qui lui est dû, et cela d'autant plus que la nuit est fort avancée et que le jour, à la lumière duquel il doit marcher, est proche et mettra tout en lumière. Le chapitre 14 contient des exhortations à se supporter l'un l'autre entre frères, ce qui était d'une importance particulière pour les croyants de l'assemblée de Rome, où se trouvaient groupés des chrétiens sortis du judaïsme et du paganisme, et où il se présentait des questions relatives aux aliments, à la boisson, à l'observation des jours et d'autres semblables. On devait avoir des égards pour la conscience de chacun. Le fort ne devait pas mépriser le faible, et réciproquement, le faible ne devait pas juger le fort. Ces exhortations sont poursuivies au commencement du chapitre 15, et l'apôtre les termine en dirigeant les regards sur celui qui n'a jamais cherché à se plaire à lui-même, mais qui a supporté les outrages de ceux qui l'outrageaient. Dans les versets 8 à 12, l'apôtre résume encore brièvement les voies de Dieu dans l'Évangile en les appuyant de citations de l'Ancien Testament. Finalement, dans la dernière partie du chapitre, il parle de son service parmi les nations ainsi que de quelques voyages en Occident qu'il espérait pouvoir faire après une visite à Jérusalem. Chapitre 12.
Lecture de la parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervents en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent, ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Lecture de l'étude. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Verset 1er. Ces paroles nous reportent au 6e chapitre de notre épître, où nous sommes invités à nous livrer nous-mêmes à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et nos membres à Dieu comme instruments de justice. Verset 13. Nous avons appris là pour la première fois qu'étant morts avec Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie et, dans les chapitres suivants, toute l'étendue des compassions de Dieu. Se basant sur ces compassions, l'apôtre nous exhorte à présenter nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il nomme cela notre service intelligent, correspondant aux enseignements du Saint-Esprit. Non seulement notre âme est délivrée et appartient à Dieu, mais notre corps aussi a été acheté à grand prix, et toutefois, si même nous attendons encore sa délivrance réelle, chapitre 8, verset 23,
« Mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. »
Notre esprit et notre âme et notre corps tout entier doivent être conservés sans reproche pour Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23.
Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas placés sur un terrain de commandements légaux ou d'exigences. Sur ce terrain, un échec complet en serait encore le résultat final, comme toujours. La grâce et la miséricorde divine seules peuvent transformer le croyant intérieurement et extérieurement. Ce n'est que par elle qu'il peut présenter maintenant son corps à Dieu avec décision de cœur, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin de sa vie. L'apôtre nomme cette présentation un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, vivant en contraste avec les sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient mis à mort, saint en opposition au caractère mondain et légal de ces sacrifices, et agréable à Dieu parce que Dieu y a sa vraie place, et que l'homme aussi prend la sienne selon les pensées de Dieu. Il est compréhensible qu'un tel service, qui en a fini pour toujours avec tous les exercices d'une religion humaine, et l'observation d'ordonnances et d'usages charnels soit appelé notre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Verset 2. Dans ces paroles, l'apôtre ajoute encore un second élément à la consécration personnelle pour Dieu, une mise en garde contre les mauvaises influences du monde, domaine de Satan. Il ne suffit pas de marcher dans la séparation extérieure du monde. Nous avons besoin d'un renouvellement continuel de notre entendement. Voir Éphésiens 4, verset 23.
Être renouvelé dans l'esprit de votre entendement.
En ne nous laissant pas souiller par l'esprit de notre temps, par les habitudes et les opinions courantes des hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans les ténèbres de leur cœur. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons croître dans la connaissance de la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite, telle qu'elle nous est présentée dans le christianisme. Il y a une gradation évidente dans ces trois mots, et nous distinguons en même temps en eux la grande différence qui existe entre la position d'un chrétien et celle d'un homme religieux, qu'il porte le nom de juif ou de chrétien. Comme toujours, ici aussi notre précieux Sauveur est notre modèle parfait. Il vint dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu, et dans toutes les tribulations de son pénible chemin, il accomplit toujours ce qui était agréable au Père, en apprenant l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comme lui, nous aussi, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu dans un monde où tout est opposé à Dieu, et si notre intelligence spirituelle se développe par le renouvellement continuel de notre entendement, nous éprouverons ce qu'est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Le résultat de cette énergie spirituelle est une séparation toujours croissante des principes du monde. Nous faisons des progrès, nous apprenons à connaître toujours mieux notre moi et à le juger, et nous découvrons plus clairement le sentier parfait de l'homme céleste sur la terre, répondant à son appel « Viens, suis-moi ». Pour marcher à la suite du Seigneur, un continuel renoncement à soi-même est nécessaire. On est content de la place que Dieu nous assigne, du chemin qu'il nous fait parcourir, on s'efforce de ne pas avoir une haute pensée de soi-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, et on a de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, verset 3. L'incrédulité recherche toujours les choses élevées et néglige précisément ce que Dieu place devant nous. Si nous avons la conscience d'avoir reçu de Dieu quelque chose à faire, cela donne à nos cœurs de l'assurance et éveille en nous le sentiment de notre responsabilité. On reconnaît avec joie ce qui a été confié à son frère, tout en cherchant à accomplir le service qu'on a reçu soi-même, avec le doux sentiment de faire la volonté de Dieu. Ceci conduit l'apôtre à nous parler pour la première et unique fois dans cette épître du corps, un sujet qui nous est bien connu, grâce à la première épître aux Corinthiens et à celle aux Éphésiens et aux Colossiens. Il le fait ici à un seul point de vue, à savoir afin de montrer l'importance des relations des divers membres entre eux. Comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement, membre l'un de l'autre, versets 4 et 5. C'est tout ce qu'il dit dans ce passage comme doctrine de Christ, la tête et de ses membres. Il passe ensuite immédiatement au devoir qui incombe aux divers membres du corps. Nous ne sommes pas simplement des croyants qui ont à servir Dieu, comme vivant d'entre les morts, chacun a la place qu'il a reçue dans ce monde. Mais nous, qui sommes plusieurs, nous nous appartenons l'un à l'autre, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes membres l'un de l'autre. Notre épître ne serait pas complète s'il n'y était pas parlé de ces relations et de la responsabilité que nous avons, comme un ensemble, un seul corps, en témoignage aussi vis-à-vis du monde dans lequel le corps se trouve. Or, ayant des dons de grâce différents, pour ce qui concerne la question « comment ces dons nous sont communiqués », nous devons nous référer à d'autres passages. Selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisant selon la proportion de foi, verset 6. Nous avons vu cette dernière expression déjà au troisième verset. Tout est grâce, il n'y a rien de nous. Tous les dons sont des dons de grâce, et il y a le grand danger pour nous d'avoir une haute opinion de nous et de dépasser la mesure de foi qui nous a été départie, surtout dans le service de la parole. La prophétie, selon 1 Corinthiens 14, verset 1er, était le don le plus désirable de tous les dons pour l'édification, car c'était celui qui amenait l'auditeur le plus immédiatement en rapport avec Dieu.
Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser.
Mais qu'arrivait-il quand celui qui parlait dépassait la mesure que Dieu lui avait donnée, quand il ne prenait pas garde à la direction de l'esprit? Et qu'arrive-t-il aujourd'hui quand c'est l'homme qui se met en avant? Il y a des dons de grâce différents, et tous sont nécessaires. Aucun membre ne peut dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi ». L'un a un don de service, un second celui de l'enseignement, un troisième celui de l'exhortation, versets 7 et 8. Tous sont nécessaires pour l'accroissement du corps, pour son édification en amour. Ils sont tous utiles et donnés aux membres pour se servir réciproquement. L'apôtre parle comme don de distribuer, même d'être à la tête. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 12.
Or nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent.
1 Timothée 5, verset 17.
Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement.
Même d'exercer la miséricorde, verset 8. Il exhorte celui qui distribue à la simplicité, celui qui est à la tête à conduire soigneusement, celui qui exerce la miséricorde à le faire joyeusement. Ces exhortations sont si simples qu'elles n'ont pas besoin d'explication. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous examiner pour savoir dans quelle mesure nous les réalisons, chacun à sa place. Ce passage nous montre combien est insensé et néfaste dans ses résultats l'existence d'un clergé que l'on a établi dès le début dans l'Église. Les exhortations qui suivent sont d'une autre nature. L'apôtre y parle des devoirs chrétiens de toutes sortes, dans leurs relations extérieures, et de l'esprit que nous devons y montrer. Deux personnes peuvent y accomplir la même chose et le faire d'une manière différente. L'une peut agir d'une manière bienfaisante, et l'autre d'une manière qui rebute. En premier lieu, avant toute autre, nous trouvons l'exhortation que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour est de Dieu, c'est pourquoi il devrait toujours être vrai et sans hypocrisie. Quiconque est né de Dieu participe à la nature divine. Il est exhorté pour cette raison à être un imitateur de Dieu. L'amour est, comme cela a été dit souvent, l'activité de la nature divine en bonté et doit être manifestée dans ce monde par ceux qui sont nés de Dieu. Sans amour, les dons les plus beaux n'ont que peu de valeur. Quelle responsabilité pour nous! Hélas, combien il peut facilement arriver qu'une belle apparence trompeuse soit prise pour de la réalité! Combien la sincérité, jointe à un jugement continuel de soi-même, est nécessaire! Comme seconde exhortation, nous avons immédiatement après « Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien ». Dieu est amour, mais le premier message qu'il nous fait entendre, c'est qu'il est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. 1 Jean 1, verset 5.
Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre.
Combien de telles paroles nous parlent sérieusement, particulièrement dans nos jours de laisser-aller et de tiédeur laodicéenne? Là où un cœur bat d'un vrai amour pour Dieu, on trouvera certainement une énergique séparation de tout ce qui est impur et l'horreur de tout mal. Une telle âme marche dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Elle ne peut pas se contenter de moins. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervents en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité, versets 10 à 13. L'affection fraternelle n'est pas la même chose que l'amour, voir 2 Pierre 1, verset 7.
La piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour.
On peut dire qu'elle a sa source dans l'amour. Toutefois, son cercle est plus restreint, c'est celui de la famille de Dieu ou de l'assemblée. Rien ne peut être plus beau qu'une profonde affection fraternelle. Toutefois, elle peut se refroidir et perdre sa cordialité, non seulement parce que nous sommes faibles, mais aussi parce qu'il y a chez nos frères et sœurs quelque chose qui met notre affection à une rude épreuve. C'est pourquoi l'apôtre dit, quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pierre parle d'une affection fraternelle sans hypocrisie. 1 Pierre 1, verset 22.
Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur.
Or ce n'est pas tout. Progressez dans l'humilité qui estime son frère plus excellent que soi-même, soyez un bon exemple pour les autres, et, conduit par l'Esprit, servez le Seigneur avec fidélité et persévérance. Ceci rappelle à l'écrivain l'avenir glorieux qui est devant le croyant, vous réjouissant dans l'espérance, ainsi que les afflictions qu'il rencontre sur son chemin, patient dans la tribulation, et enfin la souveraine ressource, persévérant dans la prière. En même temps, comme l'apôtre, nous ne serons pas insensibles aux besoins d'autres personnes, mais nous subviendrons aux nécessités des saints, nous appliquant à l'hospitalité. Ici se termine cette partie des exhortations. La suite dirige tout particulièrement nos regards sur la manière dont Christ lui-même a agi ici-bas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, versets 14 et 15. Quel exemple parfait nous avons dans notre bien-aimé Sauveur. Il a versé des larmes de profonde sympathie sur la ville de ses meurtriers. Il a prié pour ses ennemis. Son grand amour lui a fait prendre part aux joies et aux souffrances de ceux au milieu desquels il se trouvait. Puissions-nous en faire autant, malgré notre nature si excitable et si égoïste. Ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles, ne soyez pas sages à vos propres yeux, verset 16. Toutes ces choses également sont en opposition directe avec notre esprit naturellement orgueilleux, qui fait si facilement de coupables différences. Elles ont été réalisées d'une manière si glorieuse dans la carrière du Sauveur, qui s'occupait en grâce des plus pauvres de ce monde, étant lui-même le plus pauvre et le plus abaissé parmi eux. Et si plus tard son serviteur Paul a pu écrire aux Philippiens qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, nous pouvons être certains qu'il l'a réalisée. Autrement, il n'aurait pas dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». 1 Corinthiens 11, verset 1.
« Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ ».
Philippiens 3, verset 17.
Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous.
Que Dieu nous accorde d'imiter son zèle, qu'il veuille dans sa grâce nous garder de toute confiance en notre propre sagesse et en notre intelligence. N'imitons pas la fière ville des Chaldéens qui disait « c'est moi » et il n'y en a pas d'autre, et dont la sagesse et la connaissance l'avaient fait errer. Ésaïe 47, verset 10.
Et tu as eu confiance en ton iniquité. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance, c'est ce qui t'a fait errer. Et tu as dit en ton cœur, c'est moi. et il n'y en a pas d'autre.
La fin de notre chapitre nous montre encore une fois le tableau saisissant des caractères du second tome et quelles doivent être nos pensées à nous, ses disciples. Jamais il ne rendit mal pour mal, jamais il ne prononça une parole de mensonge. Lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas d'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, versets 22-23.
Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui lorsqu'on l'outrageait ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement.
C'est là aussi le chemin de ses disciples dans lequel ils doivent rechercher tout ce qui est honorable devant les hommes, ou, comme Paul l'écrit aux Philippiens, avoir leurs pensées occupées de tout ce qui est pur et aimable, de ce qui est de bonne renommée, et de ce qui a quelque vertu ou quelque louange. En marchant ainsi, ils vivront, autant que cela dépend d'eux, en paix avec tous les hommes, versets 17 et 18, ne cherchant pas leur propre bien, mais celui des autres. Avant tout, il convient aux bien-aimés de Dieu de ne jamais se venger eux-mêmes, car la colère et la vengeance appartiennent à Dieu. En son temps, il nous rendra justice. Notre affaire, si la colère des hommes s'élève contre nous, c'est de la laisser agir, c'est-à-dire de ne pas tenir tête à ses explosions, mais de les laisser passer tranquillement sur nous et de tout remettre à Dieu. Car, il est écrit, « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur, verset 19. » Ce que Dieu demande de nous, c'est non seulement de faire reconnaître notre douceur à tous les hommes, mais aussi de témoigner notre affection à nos ennemis, et, l'ayant appris de Christ, donnant à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif, peut-être réussirons-nous ainsi à atteindre leurs cœurs et leurs consciences. Car, en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête, verset 20. Si cela ne le rend pas confus, il en supportera d'autant plus les conséquences. Dans tous les cas, le chrétien, suivant en cela sa nouvelle nature, ne doit pas se laisser surmonter par le mal, mais s'appliquer à surmonter le mal par le bien. Ainsi, il devient un imitateur de Dieu, verset 21, qui, par Christ, a surmonté tout le mal qui se trouvait en nous par de riches bénédictions, et qui trouve sa joie, aussi longtemps que dure le temps de la grâce, à agir sans cesse selon ce même principe. Quelle joie on éprouve à gagner par ce moyen un ennemi, et peut-être à sauver une âme de la mort, c'est ce que ne peut ressentir que celui à qui il a été accordé de remporter une victoire de ce genre. Sans doute il en coûte quelque chose de se laisser léser, outrager, marcher sur les pieds, traiter comme une ordure, mais la récompense sera d'autant plus douce que la lutte aura été plus grande.